privé sous...
Nous sommes très ravis de retrouver Soja, n'est-ce pas?
Oh oui, bien sûr.
Bonjour.
Bonjour Rumi, bonjour Xavier,
bonjour à tous nos auditeurs. Vous allez bien?
Grosso modo bien. On attendait ton retour dans notre studio avec impatience.
Alors, cette semaine, je vais vous parler de l'adoption. Car la Corée du Sud est l'un des pays où il y a eu et où il y a encore beaucoup d'adoptions, et notamment d'adoptions internationales. Depuis la fin de la guerre de la Corée, en 1953, c'est plus de 200 000 enfants qui ont été adoptés hors de la Corée. Les principaux pays qui ont accueilli ces enfants ont été les États-Unis, la France, les pays scandinaves. La Corée du Sud a été le premier pourvoyeur d'enfants à l'adoption internationale jusqu'à la fin des années 80. Si au début ce sont des raisons économiques qui expliquent ces chiffres records, après les années 80, les raisons sont plutôt à chercher du côté de la société coréenne, elle-même qui est très conservative. En Corée du Sud, les enfants nés hors mariage sont la plupart du temps abandonnés. 90% des enfants adoptés sont nés d'une mère célibataire. Le gouvernement coréen a même pendant un temps encouragé l'adoption internationale, car s'occuper de ses enfants avait un coût non négligeable. Les femmes enceintes isolées étaient accueillies dans des centres de maternité et d'adoption. Leur accouchement était pris en charge et l'adoption présentée comme la meilleure solution à leurs problèmes.
Mais je crois que la loi sur l'adoption a été modifiée cette année.
Oui, en juin dernier, la loi sur l'adoption en Corée du Sud a été modifiée. Beaucoup d'associations ont travaillé sur la rédaction du projet de loi, comme l'association KUMFA, des mères célibataires coréennes, ou encore des associations concernant les adoptés, comme KORUT, ASK, Adoptee Solidarity Korea, et TRAC, Truth and Reconciliation for the Adoption Community of Korea. Cette loi devrait permettre à la Corée du Sud de ratifier la Convention internationale de l'AE sur l'adoption. Elle a en effet pour but d'encourager la préservation de la famille d'origine et de donner le droit aux adoptés d'avoir accès à leur information d'adoption et à la connaissance de leurs origines, qui est, il faut le rappeler, un droit fondamental inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui date de 1989 et qui s'inscrit elle-même dans le domaine des droits de l'homme. Alors, cette volonté est visible dans l'intitulé même de la loi qui a été modifiée, passant de la loi spéciale sur la procédure et la promotion de l'adoption à la loi spéciale sur l'adoption. La préservation de la famille biologique est désormais privilégiée. Un délai de 7 jours doit maintenant être respecté après la naissance du bébé avant qu'un accord d'adoption ne soit signé. La loi ordonne aussi que les futurs parents reçoivent des conseils et des informations suffisantes en matière d'éducation et non plus seulement en matière d'adoption. Alors, l'adoption, c'est un sujet délicat, car évidemment, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui sont en jeu, donc des histoires humaines. Le but de cette loi n'est pas de faire le procès des adoptions internationales, mais d'éviter dans un premier temps l'éclatement des familles, et dans un deuxième temps de favoriser les adoptions nationales pour que l'enfant puisse rester dans son pays.
Oui, Soja, et tu es toi aussi une enfant adoptée.
Oui, j'ai été adoptée par une famille française et je suis revenue aujourd'hui vivre en Corée du Sud, dans mon pays d'origine, pour renouer avec mes racines, comme beaucoup d'adoptés d'origine coréenne. La Corée du Sud est d'ailleurs l'un des pays où il y a le plus de retours.
J'imagine que ça ne doit pas être toujours facile quand les personnes reviennent.
Oui, les choses ne sont pas faciles. Alors, il y a des associations comme GoLwincas qui aident les adoptés qui reviennent en Corée en leur facilitant, par exemple, l'apprentissage de la langue coréenne par le biais de bourses d'études, ou encore qui fournissent des services pour les aider à trouver un logement ou à effectuer des démarches administratives comme l'obtention d'un visa. Mais par rapport aux recherches de la famille biologique, c'est souvent aux adoptés eux-mêmes de faire les démarches et ce n'est pas toujours facile. Alors, j'espère que ça deviendra de plus en plus facile, notamment grâce à cette loi.
Alors, comment ça se passe quand on arrive et qu'on veut rechercher sa famille biologique?
On se rend d'abord à l'agence d'adoption par laquelle on a été adopté et on demande à voir son dossier. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant, même si parfois, on n'a pas accès à toutes les informations. C'est un sujet délicat, car si les parents biologiques ne veulent pas donner leurs informations personnelles, l'enfant n'a aucun recours. C'est quelque chose de très difficile pour les adoptés, mais on peut comprendre que des parents qui ont abandonné leur enfant ne veulent pas que celui-ci les retrouve à l'âge adulte, parce qu'ils ont honte ou parce qu'ils ont refait leur vie depuis, et que leur nouvelle famille n'est pas au courant, tout simplement.
Par contre, dans cette nouvelle loi, il y a des cas particuliers où les informations seront données de droit, comme par exemple si les parents décèdent ou s'ils ne sont pas en mesure de donner leur consentement, car ils se trouvent dans des situations particulières, ou si l'adopté a besoin d'informations dans un but thérapeutique. Et puis aussi, il y a le manque d'informations. Dans les années 70-80, souvent, on ne retrouve aucun dossier administratif, aucune information, aucune trace écrite, par exemple concernant les transferts entre le lieu où l'enfant a été trouvé et l'orphelinat, le centre d'accueil ou le poste de police où il a été amené. Parfois parce qu'aucun papier existe, effectivement n'était rempli, ou aussi parce que les dossiers papier de cette époque ont été détruits depuis.
Et oui, et puis à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, donc les données n'étaient pas informatisées comme aujourd'hui.
Oui, la nouvelle loi prévoit maintenant d'ailleurs qu'une base de données soit constituée afin que les adoptés puissent à l'âge adulte s'en servir pour la recherche de leur famille biologique.
Alors Stan, comment ça se passe quand il n'y a pas d'informations?
Eh bien, on peut soit essayer de remonter les pistes en faisant des recherches sur le lieu où on a été trouvé ou sur l'information la plus ancienne qui est dans le dossier. Certains font ces recherches tout seuls, mais ce n'est pas facile, surtout quand on ne parle pas coréen. Ou alors, certaines personnes engagent des sortes de détectives privés pour effectuer les recherches. Mais évidemment, chaque cas est particulier. Je vous propose d'écouter Olivier, qui a retrouvé sa famille l'année dernière.
Il y a 3 ans, je suis venu en Corée avec ma sœur biologique pour retrouver notre famille. On est allé à l'agence d'adoption pour avoir des informations sur notre dossier. Et à cette époque-là, il n'y avait aucune information dans notre dossier d'adoption. 3 ans après, je suis revenu en Corée et grâce à l'aide de mon amie coréenne, on est allé à la mairie à Séoul. Et avec mon nom coréen et le nom coréen de ma sœur et nos dates de naissance, on a pu retrouver le nom de notre mère et son adresse à Busan. Alors généralement, c'est plus simple de retrouver sa famille biologique quand on est une fratrie. Avec les 2 noms et les 2 dates de naissance, il peut y avoir qu'une seule famille possible. Et sinon, pour mon cas, ça a été plus facile car ma sœur avait toujours son numéro d'identité coréenne.
Voilà, donc on peut dire qu'il a eu de la chance et que s'il n'avait pas entrepris des recherches par lui-même, eh bien il n'aurait jamais su que c'était si facile pour lui de retrouver sa famille. Mais quand les recherches n'aboutissent pas, ou quand on a très peu d'informations, eh bien, il y a une dernière chance, je dirais, qui est de participer à une émission de télévision pour passer un appel. Il y a par exemple une émission hebdomadaire sur KBS qui permet aux personnes qui recherchent un membre de leur famille de venir et de passer à la télé en espérant qu'on les reconnaîtra.
Et cette émission n'est pas d'ailleurs réservée qu'aux adoptés parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles en Corée qui ont été séparées.
Oui, et d'ailleurs, à chaque émission, il n'y a souvent qu'un seul adopté parmi les invités. Alors Franck, que vous connaissez bien, a justement décidé de participer à cette émission.
Oui, Franck, que l'on connaît très bien, puisqu'il travaille aussi avec nous à KBS World Radio, il anime l'émission musique coréenne le dimanche avec Tihyun.
Voilà, donc il a participé à l'émission la semaine dernière. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Et sinon, le nom de famille Park, et puis les informations sur la famille biologique, il y en a quelque chose?
Alors, j'ai aucune information sur mon père biologique. Par contre, sur ma mère, je sais qu'elle avait 28 ans quand je suis né et qu'elle portait le nom de Park. Donc, justement, le nom peut-être qu'elle m'a donné, dont le nom Park Pumil. Okay.
친아버지에 대한 정보는 전혀 아는 것이 없고요. 그다음에 어머니에 대해서.
Donc voilà. C'est pas toujours évident de parler de soi comme ça à la télévision. En plus, à la fin, ils demandent souvent aux adoptés de s'adresser directement à leur mère, si celle-ci les regarde. Et puis, ils demandent de bien regarder tout le temps la caméra pour qu'il y ait de plus de chances qu'on les reconnaisse. Alors j'ai demandé à Franck qu'il nous fasse part de ses impressions juste après l'émission.
Alors parler de ses problèmes un peu personnels devant une caméra, c'est vrai que c'est pas facile. Mais comme tu sais qu'au bout, c'est des informations peut-être qui t'aideront à retrouver ta famille. Donc en fait, tu penses à rien pendant l'émission. Tu penses justement à ce que l'émission peut t'apporter. Et donc c'est vrai que c'est un peu stressant, ça je te l'avoue. Un peu stressant et donc t'es un peu figé comme ça devant la caméra. Mais je pense que c'est une très bonne émission qui peut apporter beaucoup aux adoptés. Et c'est vrai que ça sert de dernier recours, donc je souhaite à toute personne qui veut faire des recherches de participer à cette émission si vraiment c'est leur dernière chance.
Voilà. Donc si les auditeurs qui nous écoutent ont adopté un enfant coréen, ou si vous-même vous êtes adopté, eh bien vous savez que ce genre d'émission existe et que vous pouvez y participer si vous venez en Corée du Sud.
Oui, c'est très important, je crois, de donner cette information parce que les personnes qui recherchent leur famille biologique ne connaissent pas toujours cette possibilité.
En tout cas, l'émission en question a passé vendredi dernier. Ouais. Toute l'équipe de service a regardé ensemble. Bon, une émotion, une tristesse quand même. On a souhaité vivement que Franck et Susa retrouvent leurs parents biologiques.
Bien sûr.
Voilà, c'est déjà la fin, Susa. Alors, on se dit à la semaine prochaine.
Oui, au revoir et à la semaine prochaine.
Merci, Susa. C'était un sujet passionnant, n'est-ce pas, Oumi?
Oui, et pas facile à traiter, puisque Susa est passée par là et qu'elle s'est livrée à nous.
C'est vrai, avec beaucoup d'intimité, en effet. Et puis l'intervention de Franck était également très touchante. Et je n'oublie pas Sophie, qui est, elle aussi, dans le même cas.
Toute la Corée du Sud à portée de clic sur world.kbs.co.kr/french sans les 3 W devant.